La force du bénévolat, le sujet de cette émission pour évoquer différents principes. Madame Denise Barret, présidente donc de France Bénévolat Rouen, et puis également Christian Lautel du Bureau National de France Bénévolat. Madame, monsieur, bonjour.
Bonjour.
L'important pour débuter est de rappeler les fondamentaux du bénévolat. Ça, c'est très important dans le cadre, je dirais, de la loi de 1901.
Oui, le principe vraiment de base du bénévolat qui est fondamental, c'est que c'est mettre à disposition de la compétence, du temps, sans contrepartie financière. On pourra voir que des contreparties d'une autre nature, il peut y en avoir, et il y en a, mais sans contrepartie financière. C'est extrêmement important parce qu'on en parlera peut-être aussi, il y a régulièrement des tendances pour pour donner un statut aux bénévoles, et c'est quelque chose qui peut partir d'une bonne idée, mais qui est hyper dangereux. Donc le bénévolat, pourquoi on fait du bénévolat sans contrepartie? Ça paraît drôle quand même.
C'est le bénévolat, c'est donner de son temps gratuitement.
Voilà, exactement. Et bon, alors les réponses, c'est que on n'est plus franchement dans le bénévolat pour sauver son âme. Hein. Il y a une époque, ça se faisait, c'était ce qu'on appelait les dames de charité, enfin ces choses-là. En fait, c'est beaucoup plus simple. C'est tout d'abord se faire plaisir. Parce que, des fois, il y a des gens qui disent « je m'embête à la maison » tout simplement, et c'est pas honteux. C'est du lien social. Et ça, c'est important. On est un animal social. Il faut rencontrer des gens. Souvent, quand on arrive à un âge ou qu'on n'a pas de travail, on se sent très seul. Le bénévolat, c'est un combat contre la solitude. Il y a une utilité sociale. Et ça, très souvent, se sentir utile, ça aide au vivre aussi. Hein. Et puis enfin, ça peut avoir un rapport avec le sens de la vie que l'on a. Hein. On a tous un système de valeurs, pas tous les mêmes d'ailleurs, mais on a tous un système de valeurs. Et faire du bénévolat, ça rentre très souvent dans le cadre de son sens des valeurs.
Et pour Denise Barret, présidente donc de France Bénévolat sur le Rouennais.
Donc, j'ai choisi de faire du bénévolat parce que j'avais du temps libre, l'envie de partager des expériences, des connaissances et de me rendre utile, effectivement, aux besoins des autres.
Et l'un et l'autre, vous avez commencé à être dans le bénévolat à quel âge ?
En ce qui me concerne, dès que j'ai arrêté de travailler, puis j'ai eu de la chance, j'étais dans une grande entreprise, donc qui a dit qu'il n'avait plus besoin de moi, j'avais 57 ans. Hein, donc maintenant, ça en fait déjà 16.
Oui, mais pas quand vous étiez tout jeune. Si,
effectivement, parce qu'au moment des adolescents, on travaillait avec une aumônerie qui rassemblait des jeunes pour pouvoir parler avec des gens déjà un petit peu adultes. Donc j'avais commencé à faire du bénévolat dans une aumônerie catholique, en fait.
Et vous, madame ?
J'avais pas l'impression de faire du bénévolat, mais effectivement, 17 ans, 18 ans, avec quelques jeunes de mon village, nous avons créé un petit club des jeunes pour nous occuper des enfants plus jeunes que nous, monter une petite bibliothèque, etc. Voilà, donc. Bon, puis après, ben, c'est aussi du bénévolat, en fait. Parents d'élèves, une petite association sur le village pour accueillir des dames bosniaques. J'ai fait 12 ans élu, mais simple élu, pas responsable, dans le conseil municipal de ma commune.
C'est du bénévolat.
Et lorsque l'heure de la retraite est arrivée, j'avais prévu que je voulais faire quelque chose.
Vous vouliez plus vous impliquer.
Voilà. Donc je suis arrivée à France Bénévolat en 2010 et j'y suis toujours.
Et alors, qu'est-ce qui a fait vous vouliez rajouter quelque chose, Christian Lautel?
Rajouter quelque chose sur la distinction entre le bénévolat un peu informel qu'évoque Denise, qui consiste à donner un petit coup de main aux enfants du voisin, aller faire des courses, et les aidants. Je pense à tout ce qu'on appelle le bénévolat informel, c'est-à-dire qu'il n'est pas rattaché à une association. En France, on estime que ça a un petit peu baissé, qu'il y a de l'ordre de 12 millions de bénévoles associatifs, et puis 8 à 10 millions de bénévoles informels. Évidemment, ils sont un peu plus difficiles à mesurer. Donc, en gros, en France, il y a un bénévole sur 3. Hein.
Alors, je vais dire ce que vous disiez, informel, c'est plutôt celui qui rend service à son voisin.
Qui n'est pas forcément affilié à une association, quoi. C'est surtout ça que je veux dire. Oui. Mais c'est effectivement beaucoup de la proximité.
Moi, je parlais surtout du bénévolat associatif et engagé, alors dans différentes associations. Vous avez des points précis pour indiquer qui est qui dans le pourcentage?
Alors, c'est pas statutaire, évidemment, c'est pas un objectif. On s'intéresse à tous les bénévolats, à toutes les associations. Le constat, c'est qu'on est quand même très majoritairement dans le segment humanitaire. Pourquoi? Parce que c'est de fait, hein, le monde du sportif, il évolue beaucoup en entre-soi. Très souvent, c'est les parents qui accompagnent les enfants, qui grandissent avec, qui prennent des responsabilités quand les enfants grandissent, etc. Donc c'est un cycle qui est assez fermé, enfin assez fermé, qui n'a pas besoin de beaucoup d'apports extérieurs. Et le culturel, c'est un peu la même chose. On est beaucoup en promotion interne, hein. Donc c'est vrai que de fait, on est quand même beaucoup plus dans le secteur social.
Et sur la région
C'est
le même constat.
Oui, on est en relation avec 90 associations environ sur Roanne et le Roannais. Mais il y a beaucoup de social, effectivement, du caritatif, etc. Et je pourrais même rajouter quelque chose. Il nous manque un petit peu de mission à proposer dans le domaine culturel, pourquoi pas. Sportif, bon, on sait qu'ils s'organisent, etc. Ils nous connaissent, ils nous font appel pour des événements ponctuels. Il va y avoir Tourouane-Court au mois d'avril. Là, il y a besoin de beaucoup de bénévoles. On est dans le coup, on essaie de trouver les gens qui correspondent au profil recherché. Mais je m'en suis rendu compte cette semaine encore en recevant une dame qui aurait bien aimé trouver quelque chose dans le culturel. Alors, on a réfléchi, j'ai pu lui trouver quelques pistes, mais qui n'étaient pas dans notre fichier pour l'instant. Donc, un appel, vous pouvez aussi faire appel à France Bénévolat pour les responsables d'associations culturelles. C'est aussi du bénévolat, c'est surtout du lien. Et il y a de belles choses à faire aussi.
Si vous voulez, dans l'exemple du handicap, par exemple, hein, on parlait tout à l'heure de bénévolat inclusif, on est convaincu que les personnes en situation de handicap peuvent rendre d'énormes services malgré leur handicap. Et forcément, on peut s'arranger pour rendre ça compatible. Donc du coup, là, on se retrouve avec le monde du sportif, par exemple. On travaille avec Handisport, on a organisé des randonnées avec les différentes associations, France Alzheimer, avec... qui s'intéresse, hein, les malades du cœur, je sais pas comment ils s'appellent. Voilà, avec le monde du handicap, on a des passerelles parce qu'il y a cette dimension sociale qui intervient. C'est souvent dans ce cadre-là.
Vous êtes sur RVR dans l'émission À ciel ouvert pour évoquer la force du bénévolat avec Denise Barret, présidente de France Bénévolat de Roanne, et Christian Lauten, membre du bureau national. Avant d'aller plus loin, justement, maintenant, je voudrais savoir comment se situe la France avec son bénévolat par rapport à d'autres pays tels que, bien sûr, nos pays voisins. On a une conception assez proche, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, voire le Portugal.
Alors, il y a des différences. J'ai eu la chance, je suis revenu il y a à peine plus d'un mois d'un voyage où on a rencontré les équivalents de France Bénévolat aux Pays-Bas.
Très intéressant, alors.
Donc, on s'aperçoit qu'il y a quand même des différences. D'abord, la France, on a de la chance, hein, souvent on râle, mais en gros, il y a en France la moitié de l'ensemble des bénévoles européens, hein, alors que ce n'est pas proportionnel à la population quand même, parce qu'on a un système de subventions de tout niveau, hein, qui peuvent être nationales, régionales, territoriales. Et en plus, on a un système d'avantage fiscal, hein, pour les bénévoles qui dépensent de l'argent. Ils peuvent faire du transport ou des... Voilà, ils peuvent faire transformer ça en don, comme si c'était un don financier, et donc avec un avantage fiscal qui est, pour les kilomètres, à peu près 66% de ce que ça leur a coûté, qui devient en déduction fiscale. Donc tout cela fait, on a quand même un contexte assez favorable. Il y a une différence assez nette entre ou une unicité française, c'est que on distingue ce qu'est un volontaire de ce qu'est un bénévole. En France, un volontaire, il a une contrepartie financière. Je pense aux pompiers en particulier. Hein. Oui. Les services civiques sont assimilés en France, sont considérés comme des volontaires. Ils ont une contrepartie financière. Alors que tout le monde anglo-saxon et européen parle de volunteers, qui sont de fait des bénévoles. Hein. Donc voilà, il y a une différence de vocabulaire dont il faut savoir, parce que quelquefois en France, on commence à utiliser le mot de volontaire de manière un peu à tort et à travers, avec cette confusion. Hein.
Oui.
Bon, une grosse différence que j'ai observée dans cette mission aux Pays-Bas, c'est qu'il y a une relation de confiance beaucoup plus importante encore entre l'État et les grandes associations, entre les collectivités locales et les grandes associations. Ces structures publiques n'hésitant pas à déléguer des grands segments sociaux au monde associatif avec une grande confiance et avec les sous qui vont avec. Donc un des exemples qu'on a vu, c'est que par exemple en France, dans le monde d'accompagnement des migrants, les CADA, c'est des structures publiques de la préfecture. Hein. Mmh. Là-bas, c'est une association qui gère l'équivalent des CADA. Hein.
Aux Pays-Bas.
Ah. Donc il y a des différences assez fondamentales avec une confiance et des moyens, hein, c'est ça que je veux dire, qui sont encore beaucoup plus grands aux Pays-Bas que ce qu'on a en France, qui est déjà pas si mal.
Oui, ça fonctionne bien quand même. Mais enfin, l'État aussi compte beaucoup sur le monde du bénévolat en France.
Oui, il y a tout un segment...
Peut-être pas de la même façon que vous venez de l'évoquer pour les Pays-Bas, mais en France quand même, y a... la force est là, comme je dis toujours, du bénévolat.
Voilà, donc on est en assez bonne relation avec la ministre actuelle qui, je ne veux pas dire qu'elle découvre, hein, heureusement, mais qui fait confiance à France Bénévolat, qui considère que c'est une dimension importante. Bon, on rêve toujours de plus, hein, nous, évidemment, en accompagnement, mais c'est vrai que c'est important. Il y a plein de segments de solidarité sociale dont on pourrait penser qu'ils seraient assurés par la collectivité publique et qui, en fait, ne vivent que grâce au monde associatif, hein, et aux bénévoles.
Pour Denise Barrel, oui. Un bénévole, qu'est-ce qu'il vient trouver au sein d'une association ? Alors, France Bénévolat peut-être, mais dans l'ensemble, quelle soit l'association ?
Oui. De toute façon, il vient nous voir parce qu'il cherche une mission parfois précise, mais parfois ces gens viennent nous voir, et ça arrive assez souvent, en disant « voilà, j'ai du temps ». Je ne sais pas quoi faire et surtout je voudrais me rendre utile. Qu'est-ce que vous pourriez me proposer ? Donc si vous voulez, on a un petit entretien d'environ une demi-heure en essayant de connaître un peu la personne, lui faire dire ses envies, aussi ses capacités, ses expériences. Et en fonction de ce que l'on connaît de la situation des associations sur le Rouennais, on arrive généralement à faire deux ou trois propositions pour... Donc, on donne les coordonnées, la personne prend les contacts directement avec les responsables des associations qui ont retenu l'attention du candidat bénévole, si je puis dire, et on prévient également les associations qu'ils vont avoir un contact, quelqu'un va les appeler pour arriver chez eux et voir s'il est possible... de commencer une mission bénévole ensemble.
Alors, après avoir été donc dans une association, vous avez rencontré des bénévoles. Que vous ont-ils dit ? Alors, ils ont une expérience maintenant. Qu'est-ce que cela leur a apporté réellement pour leur vie personnelle, leur développement intellectuel et autres ? Est-ce que vous avez des...
Généralement, c'est vraiment le plaisir d'être utile et de rendre des gens heureux. Le plus souvent, c'est ça, ou certains, c'est vraiment pour transmettre leur expérience, ce qu'ils savent faire, et le mettre à disposition de personnes, soit en difficulté, soit pour accompagner des projets, etc.
Je crois qu'il faut distinguer un peu les tranches d'âge, parce que traditionnellement, majoritairement, c'est tout de même les jeunes retraités, eux-mêmes... Le simple constat, c'est qu'ils continuent à faire du bénévolat pendant 10-15 ans. C'est souvent une troisième carrière. Hein. Donc ça montre qu'ils y trouvent leur compte. Quoi. Personne n'est forcé. Le travail, on est quelquefois un petit peu obligé. Le bénévolat, on ne l'est jamais. Je crois que c'est extrêmement important.
Il y a une liberté.
Et cette totale liberté. Maintenant, ce qu'on découvre, c'est effectivement des tranches plus jeunes où le sens du travail pour les salariés est en train d'évoluer. Il faut que leur vie ait du sens. Ils choisissent leurs entreprises, il faut qu'elles soient écologiques. Et il faut qu'il y ait du temps et qu'on puisse faire des activités associatives parallèles, complémentaires, avec Une évolution des associations qui doivent s'adapter à ça, parce qu'évidemment les horaires ne sont pas les mêmes, les disponibilités ne sont pas les mêmes, mais on peut faire plein de choses en télétravail, même dans le bénévolat. Donc voilà, il y a une grande réflexion du monde associatif, comment s'adapter à des gens qui sont actifs, voire à des jeunes, des étudiants. Hein, les étudiants, de plus en plus, en plus, eux, dans le cadre de leur cursus universitaire ou d'études, il y a une dimension citoyenne. Hein, et donc là, quand je parlais de contrepartie, ben quelquefois, ça vaut des points dans le cursus. Hein. Donc voilà, il y a un espace très important pour sortir de ce monde des jeunes retraités, dans la mesure où on en a perdu. Hein, le Covid, on a perdu des retraités. Et le phénomène va s'accentuer, parce que si on retarde la retraite, le nombre d'années en forme pour faire du bénévolat, il risque de réduire aussi. Donc voilà, il y a toute cette évolution qui est en cours et qui est importante.
Alors, pour répondre à la question que vous me posiez, effectivement, les 25-45 ans à peu près, eux, ils viennent avec une idée, une envie, généralement. Soit c'est de l'environnement, soit ça peut être accompagné des personnes âgées. Il y en a pas mal, en définitive. Voilà, ils ont déjà une idée de ce qu'ils souhaiteraient. Et effectivement, comme le dit Christian, il faut que nous, les associations, on soit prêts à les accueillir dans de bonnes conditions. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas évoqué, mais on peut le dire tout de suite, c'est aussi le bénévolat ponctuel. Des personnes qui sont encore actives et qui, pour certaines causes, par exemple, ou pour certains événements annuels qui se reproduisent, ou quelque chose de tout à fait ponctuel, acceptent de s'investir. Et donc là, on garde ce fichier-là précautionneusement. Et quand on a une demande, telle que par exemple Tourouancourt ou les paquets cadeaux en fin d'année, des choses comme ça, on va chercher ces gens-là, on les appelle, on leur propose la mission et ça marche bien.
C'est ponctuel donc.
C'est important de dire ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, au moment d'éventuellement s'engager, ont très peur d'y mettre le petit doigt et qu'ils y finissent avec le bras, l'épaule et tout le reste. Et donc ils disent, non, moi je veux garder ma liberté, mon temps, etc., pour faire des tas d'autres choses. Donc il faut bien comprendre qu'il ne faut pas avoir cette peur. Il y a autant de missions qu'on veut qui peuvent complètement s'adapter avec la disponibilité et les compétences qu'on a envie de mettre à disposition. Et je crois que c'est important que dès le départ, on ait fait soi-même son choix en disant « Pour moi, ce sera une demi-journée par semaine » ou « Ce sera dans telle condition et telle autre condition, en télétravail, je ne sais pas. » Mais il faut que, effectivement, les gens n'aient pas peur de ce risque de se faire déborder, quoi.
Vous écoutez RVR, la radio Ensemble. Le thème de cette émission, la force du bénévolat. Pour répondre à nos questions, Denise Barret et Christian Lauten. La force du bénévolat, qu'est-ce que cela apporte au pays dans sa globalité ? Pour la société, voilà, je ne me suis peut-être pas expliqué précisément.
De construire ensemble la société future, en fait. Il faut s'adapter...
Actuelle et future.
Voilà. Et moi, j'y tiens un petit peu, c'est aussi la passation du relais. Faire bénéficier de ses connaissances, de ses compétences pour pouvoir ensuite passer le relais et qu'il n'y ait pas de coupure dans les organisations des associations. Ça, c'est important.
Tout à l'heure, vous évoquiez avec comparaison avec le Pays-Bas que vous avez pu visiter en mission avec France Bénévolat. Je dirais, mais l'État, finalement, compte beaucoup sur ses bénévoles.
Oui et non. Oui et non. De fait, oui. Mais il y a un problème de mesure. Si vous voulez, on est dans un État et dans un monde strictement économique. Et donc, du coup, c'est très difficile de mesurer l'impact. Donc, nos associations s'efforcent de trouver des instruments de mesure de l'impact social, de l'utilité sociale. Très bêtement, on revient toujours à de l'argent, si vous voulez. Donc, il y a une tendance qui est maintenant, d'ailleurs, prévue dans les plans comptables, c'est de valoriser le bénévolat. C'est-à-dire qu'on compte les heures, on compte les heures au prix du... Alors, en fonction entre 1 et 3 fois le SMIC, on va dire, hein, en fonction des responsabilités dans l'association. Et à la fin du bilan comptable, on s'aperçoit que la valeur du bénévolat, s'il avait fallu, si elle avait été facturée, elle est énorme. Hein, j'ai fait l'exercice J'ai fait l'exercice il y a quelques années. On s'intéresse, entre autres, hein, je parlais de bénévolat inclusif, au monde pénal. Et donc, à Rouen, il y a 60 à 70 bénévoles qui interviennent dans différentes associations auprès des personnes détenues ou de leurs familles. Et le calcul, une année, on s'était aperçu, on avait fait le calcul, et on s'était aperçu que ça valait 2 équivalents temps plein et demi. Le directeur de la prison, c'était un directeur à l'époque, m'avait dit, je me rendais pas compte. Et du coup, comme ils ont un bilan social, hein, qui sort tous les ans, ben, apparaît dans le bilan social, le bénévolat a représenté l'équivalent de 2,5 personnes. Donc c'est là qu'on arrive à avoir une dimension économique. Alors il y a des bénévoles qui disent, moi je veux pas entendre parler de sous, parce que moi c'est gratuit, etc. Mais on n'a pas beaucoup le choix pour démontrer la valeur ou l'équivalent valeur de ce que ça représenterait si des salariés devaient le faire.
Alors, bien sûr, il y a des gens qui disent « Oui, mais le bénévolat coupe un peu l'herbe sous les pieds à des emplois. »
On était extrêmement vigilants là-dessus. C'est bien évident. Pour vous donner un exemple qui n'est pas territorial, hein, on a eu un jour une commune qui nous a dit « Ben voilà, la secrétaire de mairie attend un enfant, donc trouvez-moi un bénévole pour la remplacer. » On lui a dit « On est désolé, mais non, là c'est un emploi salarié. » Donc non, on a des repères assez clairs.
C'est sûr que là, il ne faut pas tout confondre, et surtout pour une commune.
Par exemple, hein.
Madame oui, Marin. J'ai eu un exemple aussi d'une école qui cherchait une volontaire ou un volontaire pour surveiller la sieste des petits. Eh ben non.
Ben oui, c'est une profession, ça. Hein.
Alors d'abord, il y a effectivement des questions de sécurité. Hein. Il y a des normes. Mais bon, en gros, ça ne peut pas être un plein temps, ni même un demi-temps, le bénévolat. Hein. Voilà. Et puis en plus, ce n'est pas forcément toutes les semaines, tout le temps, les mêmes heures. Enfin voilà, c'est pas un salaire.
Lors d'une manifestation organisée par l'association à laquelle adhère le bénévole, le président, entre autres, fait un appel à l'aide, répond qui veut, mais celui qui répond s'engage à réaliser la tâche souhaitée pour le succès de la manifestation. Bien que le bénévole ne doit pas être commandé, mais il doit toutefois quand même se conformer, je dirais, au statut de l'association, sinon l'association est désorganisée.
Alors, vous m'engagez sur un terrain que j'aime beaucoup. Effectivement, c'est que, d'abord, un bénévole ne se retrouvera jamais devant un tribunal quelconque. Hein. Il n'a aucune obligation, sauf dans le cas, effectivement, où il y a délit public, hein, c'est bien délit devant les tribunaux civils, c'est bien évident. Mais deuxièmement, l'engagement, il existe effectivement, il y a un engagement qui est moral quand on entre dans une association, et en général, la plupart des associations maintenant, des associations ont une charte de l'engagement, où qui donne des espèces d'engagement réciproque entre l'association et la personne qui s'engage.
Avec le fait, on peut faire cela et pas cela, par exemple, voilà.
Voilà, mais ça n'aura pas de valeur juridique, je veux dire, ça n'empêche qu'effectivement, si on remplit pas le contrat, on n'ira pas devant les tribunaux. Je crois que c'est assez important, donc ce n'est pas un contrat, hein, et ça m'ouvre la porte sur un débat qui se réveille assez régulièrement avec certains éléments de pouvoir public, hein, qu'on retrouve des députés régulièrement, j'ai entendu un préfet, dire « faudrait faire un statut du bénévole ». Statut, ça veut dire contrat. Donc ça veut dire devoir et obligation. Et si on ne remplit pas les devoirs et les obligations, ça veut dire juridique. Et là, du coup, le problème, c'est que ce n'est pas possible. C'est totalement contradictoire avec le principe même du bénévolat, puisqu'il y a ce risque, il y a cette perte de liberté, il y a cette dépendance par rapport à un organisme, par rapport à une hiérarchie. C'est pour ça que lorsque des collectivités publiques, nous, territoriales, nous demandent un bénévole, en général, on dit « Est-ce que ce serait possible qu'on vous trouve une association qui va être l'intermédiaire, qui sera votre interlocuteur et nous, on fournira les bénévoles à l'association hein ?» Donc, cette tentative régulière arrive et nous paraît extrêmement dangereuse parce que dès lors qu'il va y avoir... Parce qu'en contrepartie, je veux dire, ces députés, ces gens-là disent, ils ont une bonne idée, ils sont pleins de bonne volonté. Ils disent, regardez, là, il y a des gens qui vont être en retraite, qui n'ont pas tout à fait leur retraite. Donc si on leur donnait un contrat qui leur permettait d'avoir un petit revenu complémentaire ou des points de retraite, on entend ça, hein, ou d'avoir des points de retraite.
C'est plus du bénévolat, là.
Il y a des gens qui peuvent avoir envie de dire ça. Mais voilà, vous l'avez dit, ce n'est plus du bénévolat. Et dès lors qu'il y aurait cette espèce de contrepartie de points de retraite, les gens, ils iront pour faire du bénévolat. Pas parce qu'ils ont envie, pas parce qu'ils ont le sens des valeurs, parce qu'ils veulent la contrepartie financière. Donc, c'est extrêmement... Ça veut dire, ces initiatives-là, je vous en parle, parce qu'il y a encore des bruits ces temps-ci. Hein. Donc, ça tuerait le bénévolat.
Eh bien, c'est très bien de l'avoir rappelé, parce que ça va tout à fait dans mon sens. Le bénévolat, il n'est pas question d'un seul instant que le temps passé soit dédommagé. Toutefois, je souligne un point. Lorsqu'une association a des salariés, les frais kilométriques leur sont remboursés. Et je crois que moralement, l'association doit appliquer également la même mesure à ses bénévoles qui utilisent leur voiture ou prennent un moyen de locomotion. Sur ce sujet précisément, Denise Barret et Christian Leden, à vous de nous dire, vous qui connaissez bien les textes.
Il y a deux réponses à ça. Oui. J'évoquais tout à l'heure l'avantage fiscal. Pour les gens qui ont la chance de payer des impôts, effectivement, ils font ce calcul-là à zéro cette année, je crois que c'était 0,364 euros du kilomètre. Exact. Donc, ils ont cet avantage, même s'ils payent les 30%, à mon avis, c'est assez confortable pour que la totalité soit couverte par l'avantage fiscal. Mais la question, c'est effectivement les gens qui n'ont pas la chance de payer des impôts. Chance entre guillemets, bien sûr. Pour l'instant, ils y sont de leur poche. Et ça, c'est une de nos grosses revendications auprès du ministère, auprès de la DGEVA, c'est la direction de la jeunesse, etc., et de la vie associative, de dire « c'est pas juste ». Donc, parce que du coup, on ségrégationne par l'argent. Les bénévoles qui payent pas d'impôts, ils payent de leur poche leur trajet en voiture. Donc, la revendication, c'est de dire que ce devrait être traité exactement de la même manière que les gens qui payent des impôts, que ça se traduise par un avantage fiscal. À la fin de l'année, si on a un déficit fiscal, l'administration fiscale vous rembourse. Donc, c'est pas acquis, mais c'est un combat. Bon, alors, la réponse que je vais donner, c'est pas exclusivement remboursement, mais en tout cas que ça ne lui coûte rien.
Voilà, c'est pareil. Sur RVR et dans l'émission À ciel ouvert, vous êtes toujours en compagnie de Denise Barret et Christian Leden de France Bénévolat. Nous allons voir dans quelques instants l'avenir du bénévolat. Au niveau national, donc le bénévolat en baisse un peu, quand même sérieusement. Même.
Globalement, non.
Une quinzaine de pourcents, non?
Oui, ce qu'on a observé pendant la période Covid, mais on a fait une étude qui est sortie au mois de mars de 2022, qui montrait effectivement cette baisse de 15%, mais avec un espoir de remontée assez sensible sur les gens qui étaient partis pendant le Covid, parce qu'ils avaient peur de la etc. Et donc, à peu près la moitié d'entre eux disaient « on revient ». Et ce qu'on constate, c'est une montée de ce que j'évoquais, les actifs et les jeunes. Donc, grosso modo, on est plutôt dans la stabilité que dans la décroissance globale.
Et quelle vue pour l'avenir ? Christian Leden, vous qui êtes au niveau national, vous avez certainement des informations à ce sujet.
On n'a pas la boule de cristal, mais effectivement, on voit bien les axes. Hein. Oui. C'est retravailler avec les jeunes. Il y a une dimension qui est un peu intermédiaire. Si l'âge de la retraite recule effectivement, c'est que les entreprises, elles n'ont pas forcément besoin, elles n'ont pas envie forcément de garder tous leurs salariés. Donc, il y a une solution qui est très intéressante qui s'appelle le mécénat de compétences. Donc, ce n'est pas un vrai bénévolat, mais c'est l'entreprise qui met à disposition des associations, des personnes qui ont des compétences. Ça peut durer jusqu'à 2, 3, 4 ans. Gagnant 80% de leur salaire à la charge de l'entreprise qui gagne encore et qui est mise à disposition gratuitement aux associations. Donc c'est un créneau qui n'est pas du bénévolat, il faut bien le reconnaître, parce que
mécénat.
C'est vraiment du mécénat. Mais c'est une solution qui est extrêmement importante pour les associations.
Et puis un danger toutefois au bout.
Mais qui peut aussi donner envie à la personne, lorsqu'elle a terminé son contrat contractuel avec son employeur, de devenir bénévole. On a vu ces exemples-là. Effectivement, c'est une transition. De la même manière avec les services civiques. Denise vous parlera effectivement aussi des services civiques, qui ne sont pas des bénévoles, ce sont des volontaires. Mais là aussi, s'ils en prennent le goût de la vie en association, on peut les retrouver quand ils vont rentrer dans la vie active.
Alors maintenant, venons au local avec la présidente, hein, Denise Barret, France Bénévolat. Rouennais ou Loire même.
Rouennais et Renaison, parce que France Bénévolat...
Ah, et Renaison.
Loire-Nord, on va dire.
On est Loire-Nord. Ah, il y a sur Saint-Étienne un centre France Bénévolat. C'est la géographie du département qui veut un petit peu ça. La distance entre le sud et le nord est importante. Donc on a le France Bénévolat Loire Sud avec une antenne à Saint-Chamond et une antenne à Montbrison. Et on a le Centre France Bénévolat Roanne, donc Nord, qui vient d'ouvrir une antenne à Renaison. Je vais vous expliquer, c'est dans l'optique d'être au plus près des besoins. Donc France Bénévolat, modestement, on est à l'écoute, en observation, et nous avons besoin des élus, des CCAS, de tous les organismes pour voir ce qui se fait, enfin les besoins d'abord, ce qui se fait et ce qui pourrait manquer, et en essayant de faire se rencontrer tous les acteurs, générer des actions au service du public, des habitants, concrètement, pour aider. Alors, on pense notamment, donc, on a un dossier qui nous occupe depuis un certain temps, qui est l'aide aux aidants. Ces personnes qui, tout naturellement, s'occupent des malades, des handicapés près d'eux, dans leur famille, ils ont très souvent pas le sentiment d'être aidants, ils font pour eux ce qu'ils doivent faire, mais ce sont des aidants, et très souvent ils sont même anonymes, voire invisibles. Et ce que nous souhaiterions faire, c'est aller un peu plus près, travailler avec tous les acteurs du secteur pour pouvoir soulager ces personnes, créer du lien et briser la solitude.
Un travail de fourmi, là, pour retrouver, trouver des bénévoles, les convaincre.
Oui, alors un gros travail déjà de connaissance du terrain. Là. Alors là, je parle de Renaison. Rouen, on a plus de connaissances, etc. Mais notre expérience sur ce canton va nous aider aussi à soulager peut-être certaines personnes sur le Rouennais, là où on aura besoin de nous. Modestement, vraiment, on est au plus près. On propose notre présence, notre aide, pourquoi pas dans l'organisation, l'aide aux associations. Donc notre métier de base, c'est de trouver des bénévoles, de connaître les besoins des associations et de les accompagner, les associations. Et sachant que le monde associatif, vous le disiez tout à l'heure, est un petit peu en difficulté, peut-être aider à évoluer, à trouver des solutions pour accueillir différemment les bénévoles, passer les relais, etc. Conduire des projets, parce qu'une association, pour vivre, il lui faut un projet associatif. Dans ce projet associatif, il peut y avoir plusieurs thèmes. Donc c'est voilà ce que nous voulons faire. Et donc sur la partie un petit peu plus rurale de ce canton, c'est une quarantaine de communes, parfois un petit peu plus isolées que Renaison et les communes de la côte rouennaise. Il y a vraiment des problèmes de mobilité et d'isolement un peu plus importants. Donc nous sommes dans cette optique-là et dans ce travail-là.
Allez-y, Christian.
Il y a une dimension qui est importante, c'est la dimension interassociative, parce que qui fait que notre métier évolue un petit peu. Souvent, on est un peu aperçu comme étant, grosso modo, un fournisseur de bénévoles, quoi. L'intérêt de l'associatif, c'est qu'on n'est plus que fournisseur de bénévoles. On fait des choses ensemble, on fait des projets ensemble. Et donc, dans le cadre des aidants, il est bien évident qu'on n'est pas tout seul. Donc, il y a plein d'associations sur le territoire ligérien et même rouennais qui s'intéressent à ce monde-là. Et donc, nous, on les réunit. Et très souvent, c'est quasiment un petit miracle, parce que les associations font chacune un super boulot dans leur bulle, mais lorsqu'elles se causent, elles sont heureuses comme tout de se découvrir, d'apprendre qu'elles ont plein d'intérêts communs et qu'on peut faire des choses ensemble. Et donc ça, c'est assez magique.
Vous êtes là pour mutualiser.
Voilà. Et ça peut permettre de faire des projets avec quelquefois derrière une dimension financière, parce que des projets, quand on commence à avoir un peu d'ambition sur une idée qu'on pourrait faire ensemble, on dit ça va coûter, on n'a pas les moyens tout seul. Et donc là, on peut accéder à des financements. Et donc ce projet sur le canton de Renaison, on a eu la chance d'avoir un financement par AG2R La Mondiale, avec autour d'une idée qui est de renforcer renforcer l'engagement associatif au cœur des territoires. Voilà, les bons mots. Donc, le fait de travailler ensemble nous permet de faire des choses. C'est la dynamique qui fait qu'on marche ensemble.
Dans le Rouennais, ça représente combien de... Quel est le nombre ? Vous avez un nombre de bénévoles dans le Rouennais, entre Rouen et le canton ?
Sur la Loire, il me semble... qu'on arrivait à 10 000, non ?
Non, on a dépassé les 100 000 sur la Loire. Et en fait, on avait eu un chiffre qui était encore plus important. Mais bon, au mois du mois de décembre, vous savez qu'on fête la journée mondiale du bénévolat, on avait lancé le chiffre de 100 000. Mais en réalité, c'est même plus.
Avez-vous quelque chose à rajouter pour France Bénévolat et votre section, je dirais, rouennaise ?
Ah, j'ai envie de donner un exemple. J'ai déjà parlé de la prison tout à l'heure. Au mois de décembre, on a fait quelque chose qui est une première en France. C'est qu'on s'est aperçu que pendant le Covid, les associations ne pouvaient plus rentrer, ils n'avaient plus le droit. Hein. Donc toutes les associations qui organisent des activités, ils ne pouvaient pas y aller. Et on s'est aperçu que les personnes détenues ont dit « s'ils ne sont pas là, on pourrait peut-être se débrouiller tout seul. » Donc, je pense en particulier à un atelier de dames qui tricote. Donc, la dame, elle tricotait. Elle avait même un accord avec le Secours catholique qui lui donnait des plots. Et ce qu'elle avait tricoté, ça repartait dans la boutique solidaire de la rue Jean Jaurès. Non, c'est pas la rue Jean Jaurès, peu importe. Et cette dame-là, elle a dit à ses copines, puisqu'il n'y a plus personne pour animer l'atelier, vous avez envie de tricoter ? Ouais, vous savez tricoter ? Ouais, on va tricoter ensemble. Vous ne savez pas tricoter ? Je vais vous apprendre. Et voilà, c'est un exemple. Et il y en a eu comme ça 8. Et le 7 décembre, je suis allé en détention. Il y avait la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire. On a fait un petit peu une cérémonie, quoi. Hein. Et on a remis 8 passeports bénévoles. Alors, on n'a pas parlé encore du passeport bénévole. C'est un très bel outil de valorisation des acquis de l'expérience bénévole. Alors, ça permet... C'est utile pour les demandeurs d'emploi, parce que maintenant, les DRH, ils savent que c'est un outil... C'est un petit plus, quoi. Mais dans le cas de la prison...
C'est quelqu'un qui sait s'engager.
C'est quelqu'un qui sait s'engager. Et donc, ça paraissait un peu inimaginable de se dire les prisonniers, ils sont capables d'être bénévoles, de s'engager gratuitement, sans contrepartie. Sans contrepartie, dans le dossier, je dois dire que le JAP, il aime bien. Mais ça ne veut pas dire que ça va se traduire par une sortie le lendemain. Hein. Mais voilà. Donc, voilà, je voulais mentionner cette expérience parce que c'est un peu... On parlait d'innovation sociale grâce au monde associatif. Je trouve que c'est un bon exemple.
Et alors, allez-y, Denise Barret.
Oui, donc, je peux profiter de l'occasion pour lancer un appel à bénévoles.
C'est le moment.
Des choses qui sont récentes, là, notamment, très récemment, les Petits Frères des Pauvres de Rouen. Donc, recherche des bénévoles pour aller... rompre la solitude aussi auprès de personnes vraiment isolées. Donc ce sont des visites à domicile, ce sont des distractions, des petites sorties, de faire de temps en temps un café festif avec des jeux, etc. Et puis j'ai envie de dire quand même cette association, le 25 décembre, elle organise un repas avec les personnes visitées, avec toutes ces personnes isolées, et c'est vraiment le 25 décembre. Et pour avoir vu certaines vidéos de ces repas, de ces rencontres, c'est vraiment très touchant, et les personnes sont heureuses de ce moment qui les sort de leur routine et de chez elles, quoi.
Alors, on va terminer l'émission. Petit mot de conclusion de la part de vous, Christian Lauten. Et puis, la présidente clôturera définitivement l'émission.
Je vais redire l'accroche de France Bénévolat. Le bénévolat illumine la vie.
Et à vous, Denise
Barret.
Je trouve
que ce que nous faisons actuellement, c'est vraiment passionnant. Et c'est pour ça que, même si ça va bientôt faire 13 ans, je suis toujours aussi heureuse de participer et d'aider à l'organisation d'événements. Voilà.
Merci beaucoup d'être venu à cette émission pour parler du bénévolat en profondeur, je dirais, puisqu'on a fait un tour général. Et pour tous ceux qui écouteront cette émission, voilà, le bénévolat est quelque chose d'important dans la vie de chacun, je dirais, pour y trouver sa place à différents moments de sa vie. Merci à vous, Denise Barret, donc présidente de France Bénévolat Loire. Loire-Nord, oui. Loire-Nord. Et puis à vous aussi, Christian Lauten, qui est au niveau national. Et c'est bien, on pourra revoir des fois, avoir des informations de ce qui se passe au niveau national.
Et qui accepte de nous accompagner relativement souvent.
Je suis Rouennais, je reste Rouennais. Merci beaucoup de votre accueil.
Merci à vous deux. Et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Vous étiez sur RBR, 40 ans de radio, dans l'émission À ciel ouvert, avec Denise Barret et Christian Lauten. Si vous souhaitez retrouver cette émission et l'écouter en podcast, n'hésitez pas, le site rbrradio.fr.